La première.
Entrée sans frapper, Nicolas Beutars.
Dernier épisode de notre feuilleton consacré aux 40 ans de la disparition de Charlie Chaplin. Un épisode réalisé par Cécile Post qui revient sur la fin de Charlot, sa fin au cinéma. En effet, après son film Le Dictateur, Chaplin ne tournera plus de film mettant en scène Charlot, le personnage qu'il a rendu si célèbre.
Si Le Dictateur est le premier film parlant de Chaplin, c'est aussi le dernier film dans lequel apparaît le personnage de Charlot. Le vagabond de Cigane disparaît des quatre films que Chaplin tournera encore, Monsieur Verdoux, Les Feux de la Rampe, Un roi à New York et La Comtesse de Hong Kong. Si Charlot disparaît des écrans, c'est dû à l'âge de Chaplin. Comme il le dira lui-même, Charlot est jeune et habile, maintenant ce sera un Charlot vieux et du point de vue esthétique, cela ne lui plaît pas. Personne n'est plus critique que l'artiste lui-même, ajoute Chaplin.
Charlot was a very young and agile man, in spite of the fact that he had an impedimenta in his feet. He was nevertheless full of that youth and verve, and now at this time he would have to be an old Charlot. I don't know how funny that would be. Aesthetically, I don't like it. You know, there's nobody more cruel in criticism than an artist about himself. I remember one time a very great artist said to me, I said, why don't you continue in films? She said, no, my puss is beginning to drop. But if an idea comes along and it's really worthy and it fits my age, I will make it.
C'est intéressant parce qu'il est un de ces artistes qui a créé un personnage, comme Simenon, Maigret. Donc, ces gens-là mènent une double vie. Ils ont un personnage à qui ils doivent rester fidèles, à qui ils doivent se dire « non, mais lui, il ne ferait jamais ça ». Ou il y a une intégrité envers ce personnage qu'on a créé. Et lui, c'est comme ça. Je pense qu'il était limité par ce personnage. Mais ce personnage lui a tout donné, toute son œuvre. Une fois qu'il a perdu Charlot, il a perdu un peu, enfin, ça c'est mon opinion, il a perdu un peu de la magie de ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Monsieur Verdoux, Limelight, Un roi à New York. C'est des films intéressants, mais c'est pas Les Lumières de la Ville, c'est pas Les Temps Modernes, Le Dictateur. Dictateur, c'est le dernier où vraiment on voit le personnage de Charlot qui se divise entre ce dictateur fou, tyrannique, et le barbier juif, sentimental, et c'est vraiment le départ. Mais là, il y a encore Charlot dans Le Dictateur. Bien sûr, il est extrêmement drôle. Et il y a Charlot aussi dans Le Barbier, quand la scène, quand il rase. Mais après ça, c'est fini. Parce que je pense aussi, ce personnage-là ne pouvait pas vieillir. C'était quelqu'un de très physique, d'une agilité, d'une grâce que... Bon, à un moment donné, il a dû le quitter. Je pense que c'est l'âge. Je pense qu'il n'avait plus le physique de Charlot. Il n'avait plus cette énergie. Il devait, à un moment donné, s'arrêter. Et je pense qu'il s'en est jamais remis.
En Suisse, Chaplin vit sereinement aux côtés de sa femme et de ses enfants.
C'était un gentil père. Il était adorable. Il était très attentif, très, comment est-ce qu'on dit, câlin. Très gentil, très sévère aussi, mais c'était un bon père. Et il était avec nous, évidemment. Comme il partait pas à travailler, il était tout le temps à la maison.
Alors, il était à la fois quelqu'un qui pouvait être très rigolo, s'il en avait envie, et il pouvait faire des sketchs et nous faire rire, mais c'était aussi quelqu'un de sévère. Enfin, moi, je trouvais qu'il était sévère. Il tenait beaucoup à ce qu'on travaille bien à l'école, ce qui était un problème pour moi. Il aimait bien être ponctuel. Il avait ce côté-là aussi.
Il était très heureux de l'œuvre qu'il a faite, mais c'était un homme qui était tout le temps plein de doutes. C'était quelqu'un qui, chaque fois que nous on disait, allez, ce soir, on va montrer Lumière de la Ville. Non. Oui, papa, oui, on va le montrer. Parce que maman avait le projecteur et on les montrait à la maison. Et il ne voulait pas voir ces films. Mais lorsqu'on les passait, on le convainquait, là, c'était son plus grand fan de lui-même. Il le regardait, il disait « Ah, mais c'est du bon travail, ça. Ah, mais oh, c'est très drôle. Ah, qu'est-ce qu'il est drôle. » Il parlait de lui. « Qu'est-ce qu'il est drôle. » Il faisait beaucoup de fois la danse des petits pains, ça, oui, à table. Ou, par exemple, il faisait un autre numéro qui, je crois, n'est pas dans un film. Quand on sortait en Suisse, au restaurant, il demandait toujours une truite au bleu. Et c'est la truite qui vient entière. Et il faisait une énorme scène d'amour avec elle. Il la prenait. Oh, Emma, il l'embrassait sur la bouche. Et nous, les enfants, oh, comment est-ce que tu peux, mais quelle cruauté.
Je me souviens que j'étais à l'école, je sais plus si c'était la maternelle ou enfin quelque chose comme ça. Je devais avoir 5 ans, je pense. Et mes petits camarades étaient au courant que j'avais un grand-père illustre et ils avaient très très envie de le rencontrer. Donc je me souviens d'un jour les avoir invités au manoir et mon grand-père passait la plupart de son temps assis dans le boudoir face à une télé qui était la plupart du temps éteinte. On ne savait pas s'il était endormi ou s'il rêvassait, il y avait le chat sur ses genoux. On est rentré, donc il était assis sur le fauteuil, il y avait juste sa tête et ses cheveux blancs qui dépassaient du dossier. Et on est allé l'un après l'autre, vite lui toucher le crâne et repartir en courant, comme si c'était un espèce de totem. Voilà. C'est un souvenir que j'ai l'habitude de raconter, parce que c'est le seul souvenir qui est un peu frappant. C'est les petits-enfants dîner séparément des grands. Une pièce à part, et après le dîner, on rejoignait les adultes dans le salon pour manger quelques cacahuètes avec les oncles et tantes, mes grands-parents, avant d'aller nous coucher. Et ce jour-là, j'étais assis à côté de ma petite cousine Aurélia. Je mangeais toutes ces cacahuètes. J'étais l'aîné, j'étais fort, puis elle me regardait, elle n'osait rien dire. Voilà. Et tout d'un coup, mon grand-père, qui était assis de l'autre côté de la grande table ronde, se lève. Il était à l'article de la mort, quasiment. Il allait mourir, je crois, un an après. Il était la plupart du temps inerte. Il se lève et il brandit sa canne vers moi. Toute l'assistance était subjuguée. Qu'est-ce qui se passe? Ça a été un grand choc. Moi, j'ai commencé à pleurer. Ma grand-mère l'a calmée, l'a rassis. Et bon, ma mère m'a envoyé au lit. Et voilà, c'était la fin de l'histoire. Mais ce que j'ai trouvé, en repensant à ce souvenir, évidemment, on pense à ces films où il y a une de ces obsessions majeures qui parcourt toute son œuvre, c'est celle de la faim et aussi celle de l'injustice. Et voilà, bon, c'était assez extraordinaire de voir ce très très vieux monsieur qui était toujours aussi possédé par voilà, cette même passion s'exprimer dans un contexte. Voilà.
Il était agnostique, il n'était pas. Ma mère était complètement athée. Elle rejetait vraiment. Elle ne voulait pas savoir, pas discuter, elle trouvait ça ridicule, religion. Mais mon père, non. Il avait un côté superstitieux, je pense. Il croyait aux esprits. Il était intéressé par ça. Il a un ami, je ne sais plus qui c'était, qui mourait, qui lui avait dit: quand je serai mort, mets-toi à ton piano et attends, je vais essayer de te joindre. Ah, il l'a fait, il est resté à son piano. Bon, rien n'est arrivé, mais il l'a fait. Il voulait croire à ça. Et il m'a dit qu'il a demandé une fois à Einstein s'il croyait aux fantômes, aux esprits. Et Einstein lui avait dit: le jour où j'en verrai un, j'y croirai. Mais ouvert quand même. Voilà, t'es ouvert qu'il fermait pas la porte à ces choses-là. Et mon père, je pense qu'il était un peu comme ça. Il admirait beaucoup Einstein.
Entrez sans frapper sur la première.